Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Avoir des yeux dans le dos, un corps élastique ou la capacité de déplacer des objets à distance en se concentrant. Dans un instant, nous allons nous intéresser à ces nouvelles technologies capables de nous plonger dans une autre réalité, à la fois totalement imaginaire et hyper réaliste. Nous verrons ce que ces dispositifs de réalité virtuelle révèlent du fonctionnement de notre cerveau et de ses formidables capacités d'adaptation. Une enquête autour d'ossements qui pourraient être ceux de Montaigne, des sursauts gamma qui émettent une énergie d'une intensité encore jamais détectée dans l'univers. Nous en parlerons dans la revue d'actu avec Sophie Bécherel et Carole Châtelain. En deuxième heure, nous plongerons à la découverte des volcans sous-marins et plus particulièrement de celui en cours de formation au large de l'île de Mayotte. Et en toute fin d'émission, de la cravate gourde au bateau anti-mal de mer, nous nous intéresserons à des inventions ratées qui n'ont pas marqué l'histoire, mais dont les auteurs ne manquaient pas d'imagination. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes.
France Inter. Daniel Fievé.
Mais pour commencer,
on va être spectaculaire.
Oui, on va parler d'une technologie nouvelle qui est vraiment étonnante parce qu'elle mélange le rêve, la réalité, la fiction. Ça s'appelle les images virtuelles. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, en fait, il s'agit d'images qui n'ont aucune réalité. C'est-à-dire qu'elles sont complètement imaginées par les hommes qui les communiquent aux mémoires d'ordinateur. Alors je commence par me connecter sur la machine en accrochant une ceinture impressionnante qui permet de dire à l'ordinateur exactement où je me trouve. Ensuite, je vais mettre le casque. Alors, il est stéréophonique. J'ai donc une perception du son et du relief. Vous voyez, si je tourne la tête, je peux voir un paysage complètement virtuel.
Alors, Patrick, robot Esther, oui. Si je peux me permettre. C'est très joli, tout ça, ça amuse beaucoup les enfants. Mais à quoi ça sert concrètement ?
Voici comment le journaliste Patrick Esther, en 1991, dans le JT de France 2, présentait la réalité virtuelle et l'imposant dispositif technologique dont il fallait s'équiper pour y accéder. Bonjour Anatole Lécuyer.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur à l'INRIA de Rennes et vous venez de publier « Votre cerveau est un super-héros quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités insoupçonnées ». Du chemin a été fait dans le domaine de la réalité virtuelle depuis 1991. Vous avez en tête ce à quoi ressemblait le dispositif avec lequel ce journaliste était en train de s'équiper en 1991.
Oui, je me l'imagine assez bien. En fait, les dispositifs ont évolué technologiquement à l'intérieur, mais souvent l'aspect extérieur, c'est sensiblement le même, même si ça s'est considérablement réduit.
Ouais, parce qu'à l'époque, c'était quand même plus mastoc. Hein, le gros casque, une ceinture, ça prenait de la place.
Voilà, là, c'est vraiment beaucoup plus miniaturisé, puis ça tient parfois dans un téléphone.
Ouais. Par contre, les questions des journalistes n'ont pas complètement changé. Hein. Je vous voyais sourire quand ils demandent « Mais à quoi ça sert ?» C'est vrai que vous le dites dans votre ouvrage. On vous pose souvent cette question de « À quoi ça sert tout ça ?»
Ouais, alors du coup, sans spoiler la fin du livre, effectivement, c'est la question qu'on me pose très souvent et c'est la question à laquelle je réponds jamais ou j'essaye de pas répondre parce que je dis souvent qu'on est des scientifiques, on n'est pas des devins, on n'a pas inventé la boule de cristal, on ne sait pas deviner l'avenir de ces technologies et puis à quoi elles vont servir dans 50 ans, mais on fait quand même l'effort et on essaye. Si maintenant j'essaye de répondre à cette question, ouais. Et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui.
J'espère hein, quand même que vous allez faire l'effort de nourrir ma curiosité. Alors, vous gardez-vous un souvenir ému de votre première plongée dans la réalité virtuelle? Nous sommes à la fin des années 90, hein, 99-2000. Racontez cette expérience que vous racontez avec beaucoup d'émotion en fait dans votre ouvrage.
Oui, c'est un moment très fort pour moi parce que c'est le moment où j'ai compris que vraiment il se passait quelque chose avec ces technologies-là, quelque chose dont j'avais entrevu les possibilités en regardant ce genre de reportage là que vous avez diffusé. Là, j'avais 18 ans quand il passait à la télévision, mais c'est le genre de choses que je pouvais regarder à cette époque. Et puis quelques années après, bon, j'ai démarré ma thèse sur ce sujet-là, mais j'ai vraiment pu expérimenter cette sensation très puissante d'immersion dans un autre univers virtuel. À cette occasion, c'était fin des années 90. En Allemagne, j'étais parti avec ma directrice de thèse à l'époque pour visiter ce qui se faisait de mieux à l'époque dans le domaine, un laboratoire allemand situé à Bonn. Et là, donc, il y avait un système qui était quasi unique en Europe. C'était un système cave en anglais. Donc, c'était une sorte de cube, un espace cubique dans lequel on rentrait équipé de lunettes comme celles qu'on chausse au cinéma 3D. Chaque face du cube était composée d'écrans. Enfin, c'était des écrans stéréoscopiques comme au cinéma pour voir en relief. Et donc là, en l'occurrence, les côtés devant nous et puis le plancher aussi étaient en relief. Et donc, on était plongé à l'intérieur de l'image 3D. Et là, c'était un décor très sommaire, un peu comme ce qui était décrit dans le reportage, très pauvre graphiquement, parce que les calculateurs de l'époque n'étaient pas capables d'afficher des choses très compliquées. Mais néanmoins, je naviguais dans une espèce de... Dans mon souvenir, c'est un peu confus, mais c'était une forêt virtuelle, une plaine virtuelle. Et puis, je vois des petites choses qui clignotent à l'horizon. Elles se rapprochent de moi, sont des papillons qui commencent à m'entourer. Je regarde ces papillons, ils étaient très très simples aussi, mais je suis complètement envoûté par ces créatures. Ouais. Je les regarde pendant des minutes entières, en fait sans m'en rendre compte, parce qu'au bout de quelques temps, on me dit bah, « il faut sortir, là, c'est le moment de passer à la suite ». Moi, je pensais être resté 30 secondes dans le cave et j'étais resté 5 ou 10 minutes. Ouais. Et ça, c'était vraiment une expérience qui m'a montré la puissance de cette immersion.
Ça vous a marqué au point que vous décidiez d'y consacrer une thèse, hein, à ces technologies de réalité virtuelle. Ce qui est surprenant quand on y pense, c'est que ce que l'on perçoit dans ces dispositifs est finalement moins riche que ce que l'on perçoit quand on est dans la réalité. Parce que là, en tout cas, l'expérience que vous décrivez, ce sont les yeux qui fonctionnent. Finalement, beaucoup des autres sens sont anesthésiés, ne sont pas sollicités. Et pourtant, vous gardez un souvenir intense de cette expérience qui est finalement plus pauvre qu'une expérience dans la réalité.
Oui, c'est vrai, c'est un paradoxe assez étonnant, vous avez raison. Le premier effet, c'est un effet waouh quand on met des casques de réalité virtuelle. Il se passe vraiment quelque chose. J'invite vraiment les auditeurs à tester l'expérience. Et de plus en plus de monde l'ont fait d'ailleurs et ça va sans doute ça s'accentuer. Mais quand on y réfléchit et si on fait un petit peu attention, en fait, on regarde qu'on vit une expérience finalement aussi de privation sensorielle. C'est-à-dire que bien souvent, on a l'image, mais on n'a pas toujours le son, là, de temps en temps. Puis il nous manque plein d'autres sensations qu'on a dans la vie de tous les jours. Le toucher, l'olfaction, voire même les sensations gustatives. Si on dévore un morceau de gâteau virtuel, il va nous manquer beaucoup de choses. Donc, c'est mon travail et le travail de tous les collègues chez INRI à Rennes, là, où on travaille tous ensemble là-dessus pour essayer d'augmenter l'immersion et d'arriver à des sensations qui sont un petit peu plus complètes.
Ouais. Et alors, votre travail de recherche n'est pas uniquement technologique. Du coup, pour leurrer nos sens, pour nous donner l'illusion que nous ressentons des choses, il faut bien connaître biologiquement comment fonctionnent nos sens. Alors, l'un de vos sens de prédilection, c'est le toucher. C'est d'ailleurs le premier sur lequel vous avez travaillé. Comment fonctionne? Où sont les récepteurs? Qu'est-ce qui fait qu'on touche, qu'on sent les choses?
Alors, c'est vrai que pour arriver à concevoir ces technologies immersives qui s'adressent à vos sens, puis derrière à votre cerveau et à votre interprétation de tout ça, de toutes ces stimulations sensorielles, il faut connaître un petit peu la perception. Alors je prétends pas être un physiologiste ou un psychologue, hein, mais je suis quelqu'un qui développe des technologies, mais il faut s'y intéresser. Mmh. Et donc on découvre en travaillant sur ces technologies-là, et notamment j'ai découvert que pour explorer le monde avec ses doigts, en fait, on dispose d'une kyrielle de capteurs, de mécanorécepteurs sous la peau qui nous permettent d'enregistrer un certain nombre de signaux tactiles. Et quand on conçoit ces technologies-là, il faut avoir en tête les caractéristiques de ces capteurs, de ces choses qui sont sous les doigts, pour pouvoir, au regard de ça, proposer des technologies qui permettent de simuler les bonnes sensations.
Il existe des illusions du toucher, comme il peut exister des illusions visuelles?
Alors c'est vrai que j'ai aussi découvert qu'il existait des illusions haptiques.
Ouais. Haptique, c'est le sens du toucher, hein, pour le dire avec des mots compliqués.
Voilà, c'est le mot un peu savant pour désigner et qualifier le sens du toucher. Donc ces illusions haptiques, on peut les révéler de manière assez simple. Donc vous pouvez les faire chez vous ou les tester chez vous, par exemple, avec cette illusion dite du thaler, qui était une vieille pièce de monnaie utilisée en Europe il y a pas mal de temps. Mais ça marche aussi avec des euros aujourd'hui. Hein. Il suffit de prendre deux pièces de 1 euro, d'en mettre une au frigo, de la ressortir quelques temps après, une fois qu'elle est bien froide. Et puis, vous, dans ces cas-là, vous sous-pesez les deux pièces de monnaie, une dans la main gauche, une dans la main droite. Et puis, vous allez peut-être vous rendre compte ou avoir l'impression qu'une des deux pièces est plus lourde que l'autre. Donc là, vous êtes victime d'une illusion haptique, l'illusion que la pièce la plus froide est plus lourde.
D'accord. Le froid suggère à nos sensations la lourdeur.
Voilà, dans ce cas-là. Alors, après, il y a d'autres exemples, comme par exemple l'illusion taille-poids, où si vous avez deux balles dans la main, un ballon de foot et puis une balle de pétanque, mais en fait, il se trouve que le ballon de foot, il était un petit peu lesté pour avoir le même poids et la même masse que la balle de pétanque, en fait, la balle de pétanque va continuer de vous paraître plus lourde, même si elle a exactement la même masse que la grosse balle à côté.
En travaillant dans la réalité virtuelle, en fait, vous êtes une sorte d'illusionniste.
Je suis d'accord avec vous. Devant l'ampleur de la tâche devant nous de réaliser des technologies qui vous font croire à une autre réalité, qui est en réalité finalement, enfin c'est tout simplement impossible de réaliser cela en l'état actuel de ces technologies, il faut trouver des trucs, des astuces, et il faut jouer avec la perception, un petit peu à la manière d'un illusionniste ou d'un magicien.
Alors par exemple, pour le toucher, comment on crée une illusion en réalité virtuelle?
Alors là, c'est vraiment le tout début de ma thèse. En fait, ça me ramène 20 ans en arrière, là, quasiment, où effectivement, mon objectif, c'était de simuler des sensations, de toucher une image, par exemple, avec un curseur de souris. Donc vous passez votre curseur de souris sur une photographie à l'écran, affiché sur un ordinateur, et vous voulez ressentir le relief de cette image. Comment faire avec une simple souris ? Et le truc qu'on a inventé à l'époque, c'est l'idée consistait à jouer avec le mouvement du curseur, à ralentir ou accélérer le curseur, de manière à vous faire ressentir les creux et les bosses de l'image. Donc par exemple, en ralentissant le curseur, vous allez avoir l'impression que ça monte, et en accélérant le curseur, vous allez avoir l'impression que ça descend.
Comme si on peinait à monter sur une butte, puis ça glissait tout seul quand on redescend.
Voilà, donc quand vous montez sur un caillou qui est affiché sur la photo, le curseur ralentit, puis dès que vous descendez, ça accélère. Et cette simple technique, très très simple, de jouer avec la vitesse du curseur, on l'a ensuite baptisé le retour pseudo-haptique, ces illusions haptiques intégrées via la vision. C'est un terme qui est repris dans toute la communauté.
Alors en réalité virtuelle, on peut aussi jouer avec nos sens de la vision, nous donner finalement des capacités que nous n'avons pas vraiment. Par exemple, c'est aussi une recherche que vous avez menée. Comment notre cerveau s'adapterait-il si nous avions une vision à 360 degrés, autrement dit si nous étions dotés du champ visuel d'une mouche ?
Voilà, c'était une idée un petit peu folle, comme il en vient des fois dans nos cerveaux de scientifiques, parfois endormis, parfois pas bien réveillés. Et là, en l'occurrence, c'était, tiens, qu'est-ce que ça ferait de voir comme une mouche ou comme un lapin, comme une vache, comme ces animaux qui sont dotés d'une vision à presque 360 degrés ? Assez rapidement, on a réalisé avec les collègues que c'est technologiquement, c'était très facile à implémenter et à développer. Donc on a créé ce prototype qu'on a appelé le FlyVis, la vision de la mouche en anglais, qui permet effectivement chaussé d'un visio-casque, équipé d'une caméra 360 qui filme tout ce qui se passe autour de vous, et on l'affiche en temps réel tout de suite dans le visio-casque. En fait, vous voyez comme une carte postale panoramique en temps réel de votre environnement, et vous vous mettez à ne plus avoir besoin de tourner la tête pour regarder ce qui se passe dans votre dos.
Ce qui est absolument incroyable dans cette expérience, c'est pas tant le dispositif technologique, en tout cas moi, c'est pas ce qui me passionne, c'est la façon dont le cerveau s'adapte relativement rapidement à quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour lui. Tout d'un coup, le champ de vision est à 360 degrés et les gens que vous avez équipés de ce dispositif s'habituent et apprennent à se déplacer dans l'espace avec ce nouveau sens.
Oui, il y a une période d'adaptation, mais les gens arrivent relativement rapidement, on n'a pas mesuré ça encore une fois, mais à se mettre à marcher en arrière pour passer un pas de porte, ou à serrer la main à quelqu'un qui est dans son dos sans se retourner, etc. Et c'est assez étonnant. Et ça m'évoque autre chose aussi, c'est le sentiment de vertige en réalité virtuelle, qui là, si vous chaussez un casque de réalité virtuelle et si on vous met devant un précipice virtuel, alors que vous êtes en réalité sur le plancher des vaches, sur un sol parfaitement plat, si je vous demande de faire un pas et de marcher dans le vide, virtuel, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire. Et là, votre cerveau inhibe un petit peu, ou en tout cas, il n'a pas envie de commettre cette folie virtuelle d'aller vous jeter dans un vide, alors qu'en fait, vous êtes dans votre salon.
Ça montre à quel point vous arrivez à leurrer notre cerveau. Alors, vos expériences vont assez loin. Vous avez donné l'impression à des gens aussi qu'ils avaient un sixième doigt, qu'ils avaient une main avec six doigts. Alors, c'est des choses qui existent dans la nature. Il y a certains humains qui ont un sixième doigt. Mais là, sur des personnes qui avaient cinq doigts, vous leur mettez artificiellement en image virtuelle un sixième doigt et très vite, ils apprennent à s'en servir.
Ouais, là c'est vrai que c'est un sujet qui moi me passionne en ce moment, c'est le sujet de l'avatar, en référence au film par exemple de Cameron. Ouais. Donc c'est cette question liée aux avatars en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on met un casque de réalité virtuelle, on regarde son corps, et en lieu et place de notre corps se trouve un corps virtuel, qui peut être fidèlement reproduit par rapport au nôtre, mais qui dans certains cas peut être très différent. On peut changer de musculature, d'embonpoint, on peut changer de couleur de peau, on peut même changer de sexe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce qu'on va accepter ce corps virtuel ? Est-ce qu'on va se comporter différemment selon notre corps virtuel ? Et quand on enlève le casque, qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Donc, c'est ces questions qui nous intéressent beaucoup. Et pour aller assez loin, en fait, sur cette question-là, on essaie de regarder jusqu'où on peut aller. Est-ce que si je vois un corps, et je suis dans un corps qui est anatomiquement, morphologiquement très différent du mien, je vais l'accepter ou je vais le rejeter. Ouais. Là, en l'occurrence, on accepte son sixième doigt assez naturellement, assez rapidement, Et à la fin, quand on retire ce sixième doigt, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose.
Oui, c'est ça. Les gens sont tellement habitués qu'après, ils y tiennent finalement à ce sixième doigt. Alors les casques de réalité virtuelle, la plupart du temps, jouent sur le son et l'image, mais ça suffit pour nous transporter ailleurs avec des applications parfois surprenantes, comme ici à l'hôpital de Purpan à Toulouse.
Lisa doit subir une ponction lombaire. L'examen est particulièrement douloureux et redouté. Elle va porter un casque de réalité virtuelle et s'immerger dans un univers bien éloigné de l'hôpital.
Ça déstabilise le personnel, hein. Faire des soins sans dire un seul mot dans la chambre, alors qu'avant on est obligé de dire « je nettoie ta peau ». Là, on ne dit plus rien. L'enfant est complètement immergé, il a du son dans les oreilles, il a ses images devant lui, il a une télécommande.
Elle, ça lui permet d'être focalisé sur autre chose, de ne pas y penser, donc on voit qu'elle est calme. Après, on arrive à la positionner parfaitement. Bah, c'est parfait, parce que pour le geste... C'est plus facile.
Hop là ! Bonjour.
À la fin du soin, Lisa paraît totalement détendue.
Allez. C'est toujours un petit peu stressant parce qu'on sent qu'ils vont mettre les doigts, qu'ils vont piquer. Après, comme on est concentré dans le jeu, enfin, ça va, on sent rien.
Utilisée pour l'instant au CHU de Toulouse sur les enfants, la réalité virtuelle pourrait bien être proposée aux adultes. En France, des tests ont été réalisés dans la prise en charge des phobies, des addictions, ou même pendant des accouchements.
Un reportage diffusé sur France 3 en juin 2018, ces casques de réalité virtuelle. Alors là, ça peut éviter l'anesthésie, ça peut être utilisé à d'autres fins thérapeutiques. On n'est pas uniquement là pour jouer avec ces casques de réalité virtuelle.
Oui, c'est vraiment ce que j'essaie d'illustrer dans mon livre aussi, c'est que ces technologies-là, elles ont des effets, des applications qui peuvent être extrêmement intéressants dans plein de domaines différents. Donc notamment dans le domaine médical, où là on y croit beaucoup, effectivement, il y a déjà des applications, ça le grand public n'est pas toujours au courant, hein, mais là je trouve le reportage est très parlant, des applications dans le domaine des traitements des douleurs, effectivement les phobies, où c'est très utilisé.
Pour les phobies, en fait, il s'agit de nous confronter à ce qui nous fait peur, mais avec une certaine distance grâce à la réalité virtuelle.
Voilà, c'est le principe des thérapies comportementales cognitives, où on va essayer de s'exposer progressivement aux éléments anxiogènes. Et en réalité virtuelle, on peut contrôler ça parfaitement et on peut s'exposer dans des conditions complètement sécurisées. Et on va apprendre progressivement à domestiquer, à vivre avec cette peur.
Anatole Lécuyer, vous avez aussi mis au point des dispositifs qui permettent de contrôler un objet par le cerveau ou encore de voir son cerveau fonctionner en se regardant dans un miroir. Vous allez nous emmener visiter ces mondes virtuels cet après-midi sur France Inter.
Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. Immersed in sin is all we have to give these visions.
Virtual Insanity, c'était Jamiroquai.
France Inter, du vent dans les synapses.
Oh, le vaisseau, nous ne pourrons plus le récupérer.
Quelle certitude as-tu?
Mettre faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent.
Voyage vers le futur, ses préparatifs pour être un Jedi et soulever un vaisseau par la seule force de la pensée. Une technique qui utilise le cerveau pour commander un ordinateur. Mais pour que ça marche, il faut être très concentré.
On se dit des choses et ça le fait pas. En fait, c'est bizarre à contrôler.
On se pose des questions quand ça marche. Puis c'est assez drôle de voir que ça marche comme ça.
Le principe, utiliser le champ électrique produit par le cerveau lorsqu'il imagine un mouvement.
Tu penses bouger les pieds, d'accord?
Alors, je lui ai mis tout ça pour capturer ses ondes cérébrales. En fait, donc c'est pour capturer l'activité de son cerveau. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir une interaction entre le cerveau et la machine.
Soulever un vaisseau en se concentrant, c'est dans votre laboratoire, Anatole Lécuyer, que l'on expérimente ces dispositifs de réalité virtuelle. Alors, vous êtes l'auteur, Anatole Lécuyer, de « Votre cerveau est un super-héros » aux éditions Humaine Science, et vous y écrivez dans ce livre que ce stage que vous avez proposé est le plus extravagant jamais publié dans votre équipe. Voici l'intitulé « Virtual Dagobah, simuler l'entraînement à la télékinésie de Luke Skywalker en réalité virtuelle ». Ça, c'est un stage qu'un étudiant est venu faire dans votre laboratoire. Qu'est-ce qu'il a dû mettre en place?
Bah là, c'était, ouais, on s'est vraiment amusé avec ce stage. C'était un peu la consécration de tout un travail qu'on menait depuis des années sur ces interfaces neuronales dont on pourra parler, qui permettent effectivement de contrôler à distance uniquement par l'activité cérébrale, pas par la pensée, on pourrait y revenir, mais par son cerveau. Et l'illustrateur final d'un projet assez complexe qu'on a mené pendant des années, c'était effectivement de pouvoir reproduire cette séquence de la guerre des étoiles que vous avez venu de diffuser, qui moi m'a marqué quand j'étais enfant. Et donc j'avais envie de recréer cette scène et cette séquence, et on l'a fait avec une équipe d'ingénieurs et de développeurs formidables. C'était la séquence où Luke, le héros de la guerre des étoiles, essaye de soulever un vaisseau spatial par la force de son esprit. Et donc là, on a technologiquement réussi à le faire.
Ouais. Alors, il faut qu'on décrive le dispositif, hein, parce que l'auditeur qui n'a pas l'image peut être un peu perdu. On est dans une salle d'immersion de réalité virtuelle, c'est-à-dire une salle sur laquelle il y a des écrans sur les quatre murs et un écran au sol.
Comme le cave dont je parlais au tout début, donc cette grande salle immersive. Là, cette fois-ci, on a un casque à électrodes sur la tête. Donc on a les lunettes stéréo comme au cinéma, on est dans la scène reproduite en 3D fidèlement de la guerre des étoiles, et puis on a ce casque à électrode, ce bonnet à électrode sur la tête qui enregistre votre activité cérébrale, qui l'analyse en temps réel et qui essaye d'identifier quand est-ce que vous vous concentrez ou quand est-ce que vous vous reposez. Et il faut se concentrer très fort pour arriver à soulever le vaisseau spatial.
C'est pour ça que vous dites on ne pilote pas avec la pensée, parce que ces électrodes, elles ne mesurent pas vraiment notre pensée, elles mesurent une activité électrique du cerveau.
Oui, c'est important de faire cette nuance-là et cette différence, de bien clarifier qu'on n'est pas en train de lire dans les pensées, de déchiffrer les rêves. Ce sont des questions que j'ai assez souvent. Non, là, en fait, on va vraiment essayer d'analyser l'activité électrique du cerveau. Et dans cette activité électrique du cerveau, essayer d'identifier des motifs, des activités qui vont servir ensuite à commander quelque chose.
Alors ces expériences, c'est un peu comme dans la guerre des étoiles, ne marchent pas avec tout le monde. On peut disposer ces électrodes sur la tête de tout le monde aux mêmes endroits. Certains arrivent à faire bouger le vaisseau par l'activité cérébrale, d'autres n'y arrivent pas.
Ben, c'est mon drame en fait. Moi, je ne suis
vous
pas,
n'y arrivez pas,
voilà,
par exemple.
Je ne suis pas un Jedi avec ces technologies-là. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas très bien avec moi.
Mais alors, c'est intéressant, pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous dites, alors c'était une autre expérience, il fallait déplacer un objet sur un écran, mais à la Cité des Sciences, on a proposé à des visiteurs de mettre le casque à électrode et puis de faire bouger un petit point, et certaines personnes n'y arrivaient pas et disaient « je ne suis pas assez intelligent pour y arriver ». Est-ce que c'est de ça dont il s'agit?
Ça nous désolait vraiment, parce que et ça montre à quel point il faut expliquer et faire un travail pédagogique autour des technologies, puisque là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans l'intelligence. Et la faute n'incombe pas au sujet, donc là c'est pour ça que je me sens pas très affecté à l'idée de pas être un Jedi technologique. Ouais. C'est plutôt le système aujourd'hui qui n'est pas encore capable de s'adapter à tout le monde. Et il va falloir du coup que nos technologies s'améliorent pour que ça puisse marcher avec tout le monde et que tout le monde devienne un Jedi.
Alors avec ces casques à électrodes, vous avez aussi mis au point un dispositif qui permet d'écrire un mot uniquement en se concentrant. Ça fait appel aux mêmes technologies, ça ?
Ce sont les mêmes technologies. Ensuite, ce sont des activités cérébrales qui sont un petit peu différentes que celles qu'on a utilisées juste avant. Donc là, ce sont des collègues de l'INSERM, l'équipe qui était dans le projet avec nous, qui a développé ce formidable éditeur de texte par le cerveau.
Ouais.
On va se concentrer sur des lettres qui flashent à l'écran. Il faut se concentrer sur ces lettres. En fait, on va détecter le moment où, dans votre activité électrique, on retrouve une réponse à une lettre qui clignote à l'écran.
Alors ce dispositif pourrait aider des personnes lourdement handicapées pour lesquelles la communication avec l'extérieur est devenue difficile.
Cet appareil d'écriture par la pensée est testé dans un hôpital de Lyon. Stéphane, tétraplégique, mettra près de 5 minutes pour écrire bonjour. Il doit se concentrer d'abord sur une lettre. Lorsqu'elle apparaît sur l'écran, elle produit une stimulation enregistrée par l'ordinateur, ce qui permet de former des mots. Une révolution.
Les populations qu'on vise, c'est des gens qui sont bloqués dans leur corps, donc qui n'ont plus aucun contrôle musculaire. Et donc pour eux, le dernier moyen de communication, c'est leur cerveau.
La même chose, l'outil est encore très rudimentaire et les chercheurs travaillent à améliorer le concept.
Une expérimentation menée à Lyon. Où en est cette recherche aujourd'hui, Anatole Lécuyer ?
Sur ce sujet-là, le nombre de publications est en train vraiment d'exploser. On a beaucoup de laboratoires qui se positionnent sur cette question-là. Et puis aussi des industriels hein, qui revendiquent aussi une activité sur ces technologies d'interface neuronale. Donc les choses avancent. Elles avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait et certainement pas aussi vite que les personnes qui en ont le plus besoin. En l'occurrence, on évoque les patients qui sont vraiment entièrement paralysés le voudraient. On essaie de travailler aussi bien sur les capteurs, les électrodes, que sur le traitement des signaux et l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, sur la compréhension des mécanismes du cerveau. Donc il y a plein de sujets scientifiques derrière et c'est un sujet qui va encore nous intéresser pendant les 10, 15, 20, 30 prochaines années.
Alors dans votre laboratoire, vous ne cessez d'innover en créant de nouvelles interfaces entre le cerveau et la machine. Vous avez aussi développé par exemple le Mind Mirror, un miroir pour regarder son cerveau fonctionner en temps réel. Ça marche comment ça ?
Donc là, c'était, à ma connaissance, l'un des tout premiers dispositifs technologiques qui combinait ces interfaces neuronales dont on vient de parler, et puis la réalité augmentée. On vient superposer des éléments virtuels avec les images réelles, par exemple dans des vidéos. Donc là, on avait envie de donner la possibilité à l'utilisateur, aux gens, de se regarder dans un écran et un miroir technologique, et de pouvoir voir son cerveau en action, à l'intérieur de sa tête. Donc vous êtes le matin devant le miroir en train de vous débarbouiller ou de vous laver les dents et vous pouvez regarder en fait ce qui se passe au niveau de votre cerveau dans votre tête à vous.
Mais concrètement, je vois ma tête et en transparence, je vois des zones de mon cerveau qui est figurée par une image au niveau de mon crâne qui s'allument et qui m'indiquent en temps réel comment j'active mon cerveau ?
Voilà, alors c'est en fait, il faut s'être équipé préalablement quand même d'un bonnet à électrode et puis du coup on va enregistrer l'activité électrique de votre cerveau et puis on va afficher cette activité électrique sur un modèle virtuel de votre cerveau, une image virtuelle de votre cerveau qui va changer de couleur par exemple lorsque une zone s'active plutôt qu'une autre. Et ainsi on peut révéler par exemple l'activité de votre cortex moteur ou alors des phénomènes liés à votre attention visuelle. Lorsque vous êtes très détendu ou relaxé aussi, vous allez avoir une belle onde alpha qui va se propager avec un joli nuage rouge qui va apparaître dans votre cerveau, par exemple.
Et ça pourrait servir à quoi ?
Oui, alors là, c'est vraiment une application qui nous tient à cœur parce que c'est derrière ces technologies-là, effectivement, qui peuvent paraître très futuristes et pourtant qui existent. Hein. L'idée, c'est à nouveau des applications médicales. Donc là, on est dans le domaine du neurofeedback. C'est un terme peut-être un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est de dire, avec un retour sur son activité cérébrale, qu'on voit pas le matin, parce que quand on se lave les dents le matin, on n'a pas le cerveau en action en face de vous dans le miroir.
Mais même si on n'a voit pas le cerveau en action tout court, parfois, quand on se réveille le matin.
Voilà, donc si, à partir du moment où, pour le coup, vous verriez votre cerveau en action, il se passe un phénomène assez étonnant, c'est qu'on trouve en nous les connexions cérébrales pour prendre le contrôle de ces ondes qui sont affichées visuellement, et on va progressivement trouver les moyens de contrôler certaines ondes cérébrales. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que certaines ondes cérébrales sont liées à des pathologies. Et donc, on va pouvoir, en reprenant le contrôle de ces ondes, dans certains cas, soigner et guérir de certaines pathologies.
Ouais, alors, on parle de quelle pathologie, là ?
Il y a beaucoup, beaucoup de pathologies qui sont visées, hein, mais les tests les plus concluants portent sur les déficits attentionnels. Vous savez, quand on a du mal à se concentrer, à rester, à garder son attention très longtemps, ça peut toucher malheureusement des enfants qui sont dans une situation de TADA, de trouble de l'attention, de l'hyperactivité, du déficit attentionnel. Et ce qui semble être le plus intéressant pour ce neurofeedback, c'est effectivement l'idée de proposer à ces enfants de regagner progressivement un contrôle sur cette attention et, on l'espère, dans certains cas, supprimer l'utilisation du médicament.
C'est-à-dire, on apprend à contrôler la façon dont fonctionne son cerveau.
Voilà, à l'écran d'ordinateur est affichée une jauge qui va monter ou descendre selon, par exemple, votre onde alpha.
Ouais.
Et à vous de faire monter la jauge ou de la faire baisser, selon la consigne qui est donnée par le médecin à côté de vous. Eh bien, au bout d'un moment, vous allez trouver les moyens en vous de faire monter ou descendre la jauge à volonté. Et dans certains cas, donc pour certaines pathologies, contrôler cette onde cérébrale est supposé, et on a quelques éléments cliniques là qui semblent bien le démontrer dans le cas du déficit attentionnel, est supposé réduire les symptômes de la pathologie.
Et concrètement, dans le cerveau, l'onde alpha, elle correspond à quoi ?
Alors l'onde alpha, on peut l'observer, c'est la toute première onde cérébrale qui a été observée dans les années 1930 par l'inventeur de l'électroencéphalogramme Berger. C'est une onde qui arrive dans votre cerveau, par exemple, si vous fermez les yeux. Donc vous avez un pic d'alpha à ce moment-là. Si vous êtes très détendu, votre alpha va augmenter. Si vous commencez à vous endormir, là, votre alpha va aussi augmenter certainement.
Mmh. Donc apprendre à émettre cette onde alpha avec notre cerveau, c'est apprendre à se détendre finalement.
Oui, on pourrait résumer ça comme ça. Ouais.
Vous avez aussi combiné deux techniques d'imagerie, l'IRM et puis l'électroencéphalogramme. Ça permet de regarder son cerveau sous toutes les coutures, en quelque sorte.
Alors là, c'est un projet vraiment très excitant en ce moment, qui est dirigé par Christian Barillot à Rennes, et j'ai la chance de participer avec lui à cette aventure scientifique. Donc là, pour une des premières fois au monde, on va effectivement essayer de combiner EG-IRM. Donc l'IRM, je ne sais pas si vous avez déjà connu cette expérience-là, c'est cette grande bobine électromagnétique dans laquelle vous rentrez la tête ou le genou pour sortir ces images de l'intérieur des tissus de votre corps humain. Eh bien, on va combiner ces deux techniques d'imagerie en même temps, en temps réel, à des fins de neurofeedback, et cette fois-ci pour des pathologies comme l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, ou la dépression, en collaboration avec des médecins rennais. Les premières études ont démarré avec des patients, et les résultats sont très encourageants.
En fait, il s'agit de mettre en place une forme de rééducation du cerveau, c'est un peu ça votre idée ?
C'est ça, on va essayer de rééduquer son cerveau, un petit peu comme quand on essaye d'apprendre à danser, on va se regarder dans le miroir et corriger la posture, corriger le geste. Là, on va regarder son cerveau en action et essayer de corriger l'activité cérébrale.
Alors, à force de connecter nos cerveaux aux machines et de construire des environnements virtuels plus vrais que nature, est-ce qu'on ne va pas arriver à ça ?
Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital.
Alors, rien de tout ça n'est réel ?
Qu'est-ce que le réel ?
Un extrait du film Matrix, Anatole L'Écuyer. Vous terminez votre ouvrage en disant que la question « jusqu'où peut-on aller ?» est une question que tous les journalistes vous posent et que vous refusez d'y répondre. Alors, je biaise un peu avec cet extrait de Matrix. Est-ce qu'on ne va pas finir comme les personnages de Matrix, tous reliés à des machines, évoluant dans un monde virtuel ? Ça restera de la science-fiction ou on pourrait y arriver un jour ?
Je pense qu'on en est très très loin, on est vraiment très très loin de cette capacité technologique-là. Par contre, c'est vrai que ce que je dis dans le livre, c'est que je pense qu'effectivement les technologies qu'on développe, elles ont vocation à se mélanger, à s'hybrider et à donner des casques aujourd'hui hybrides qui vont combiner électrodes et affichage de réalité virtuelle pour, moi je pense, des applications qui sont très intéressantes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation, de la création. Je pense qu'il y a plein de choses maintenant à utiliser ces technologies pour développer des applications formidables.
Alors votre livre, Anatole Lécuyer, est aussi l'occasion de découvrir un parcours. Vous vouliez faire de la bande dessinée étant plus jeune. Ça aurait été une autre façon de nous plonger dans des mondes imaginaires, la bande dessinée?
Oui, et je continue à dessiner d'ailleurs.
Ouais, il vous arrive encore de dessiner avec des vrais crayons sur du vrai papier?
Oui, c'est un vrai plaisir et je continue à revendiquer cette activité aussi imaginaire.
Merci Anatole Lécuyer. Je rappelle le titre de votre livre, Votre cerveau est un super-héros, aux éditions Humaine Science. Un grand merci à vous.
Merci.
En deuxième heure, nous nous intéresserons au volcan sous-marin et plus particulièrement à celui qui est en cours de formation au large de Mayotte. Et dans un instant, ce sera la revue d'actu avec au programme des discussions, une enquête autour d'ossements qui pourraient être ceux de Montaigne et des sursauts gamma qui émettent une énergie d'une intensité encore jamais détectée dans l'univers.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy. Des gens qui rient, ils ont un petit peu froid. Ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière I'm 50s I'm 50s dans le radiola André Verschuren les enfants soldats les montagnes algériennes, la Picardie est belle, sur la route ravie, en arrond de plein ciel, qui rentre à Paris. I'm 50. Rue campagne première, personne le ramasse. Quand il tombe par terre, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Au salon de l'auto sous le dos, touche pas au Grisby du con. Dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon. Jeanne la fatale file au festival à 200 à l'heure dans le train Mistral. Y'a un coiffeur. I'm 50s. I'm 50s. Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, Armfique, Monique, Frégate, Transfluide, Vedette, Abeille, Patrick, Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux, Renault, Roger, Jacqueline, quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
Am 50, c'était Alain Souchon. J'en profite pour vous dire qu'une soirée France Inter sera consacrée à Alain Souchon lundi 16 décembre prochain avec un concert retransmis en direct de 21h à 22h.
Du vent dans les synapses. Daniel Fievé.
Et pour la revue d'actu scientifique de la semaine, autour de la table, Carole Châtelain de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nous troublons la vie par le souci de la mort et la mort par le souci de la vie. L'une nous cause du regret, l'autre nous effraie. Ce n'est pas contre la mort que nous nous préparons, c'est une chose trop momentanée. Un quart d'heure de souffrance passive, sans conséquence, sans dommage, ne mérite pas des préceptes particuliers. À dire vrai, nous nous préparons contre les préparations à la mort.
Extrait des essais de Montaigne. Qu'aurait dit le philosophe s'il avait su que plus de 4 siècles après sa mort, il serait au cœur d'une véritable enquête? Au départ de cette enquête scientifique, il y a une découverte étonnante, Carole Châtelain.
Oui, il y a le résultat d'une grande curiosité de la part du nouveau directeur du musée d'Aquitaine à Bordeaux, qui, prenant ses fonctions, est descendu dans les sous-sols de ses réserves. Et là, qu'est-ce qu'il a découvert? Eh ben, un étrange édifice qui était pris dans les étagères de ses réserves, et il s'est demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et la personne a su lui répondre. Donc, en bon curieux qu'il était, il a fait percer 2 petits trous dans cet édifice, il a fait passer une petite caméra, et là, il a aperçu un cercueil, et mieux que ça, sur le cercueil, une plaque de cuivre qui indiquait M de Montaigne. Mmh. Alors là, son sang n'a fait qu'un tour et tout a été mis en place pour monter une équipe scientifique pluridisciplinaire pour aller y voir de plus près.
Mais on avait perdu la trace de Montaigne avant cela? On ne savait plus où était son tombeau?
Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, on ne savait plus où était Montaigne. Montaigne est bordelais d'origine. Il est mort en 1592 dans son château de Michel de Montaigne, qui n'est pas très loin de Bordeaux. Il a été élu 2 fois maire de Bordeaux et il a été, à sa mort, il a été enterré dans un couvent qui est au cœur de la ville, qui était le couvent des Feuillants. Et ce couvent a eu des vicissitudes. Il a été transformé en lycée, puis il est devenu la faculté des lettres et sciences. Et puis, depuis, il est devenu le musée d'Aquitaine. Entre-temps, la dépouille de Montaigne a navigué plus ou moins au gré de ses aléas. Et il a fini dans un cimetière, le cimetière des Chartreux à Bordeaux, dont on l'a rapatrié au XIXe siècle pour l'inhumer dans ce qui était alors la faculté des lettres et sciences. Et là, ben aussi étonnant que ça puisse paraître, mais il a disparu des mémoires, donc plus personne ne savait que la dépouille de Montaigne pouvait se trouver là.
Alors en quoi va consister maintenant la mission scientifique qui a été conduite ces jours-ci?
Alors, la mission scientifique, elle est très simple. Elle consiste d'abord à geler la scène en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle a été reconstituée en 3D. Puis, le petit édifice a été ouvert. On en a retiré un cercueil en bois. Et ça s'est passé tout à fait récemment, au début de cette semaine, le 18 novembre. Et puis, sur ce cercueil en bois, et incroyable, on a vu effectivement une mention Michel de Montaigne peint en lettres rouges. Les scientifiques, évidemment protégés de leur combinaison pour éviter toute contamination, et l'équipe est dirigée par Hélène Réveillas du Centre d'archéologie préventive de Bordeaux, a ouvert ce cercueil très bien conservé de bois de chêne, et à l'intérieur, eh bien, à la surprise, ils ont découvert un cercueil de plomb. Alors, assez abîmé. Et ils ont été voir à l'intérieur du cercueil de plomb et ils ont aperçu des ossements.
Ces ossements, on va pouvoir les analyser?
Alors justement, ils ont aperçu un fémur, ils ont aperçu un crâne. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que ils vont mettre en place tout un protocole pour ouvrir ce cercueil de plomb et ils vont analyser pour essayer de retirer l'ADN qui pourrait éventuellement rester dans ces ossements pour le comparer aux descendants de Montaigne, parce que Montaigne a des descendants, mais c'est très compliqué de les retrouver, parce qu'il faut suivre les lignées féminines. Les modifications génétiques sont moins importantes dans les lignées féminines. Donc, ça sera peut-être fait, ça sera peut-être positif, on le saura dans quelques mois. Et parallèlement, on fait des constatations morphologiques, c'est-à-dire on regarde si le squelette est grand. Alors, visiblement, il n'est pas grand. Mm-hmm. Le cercueil fait 1m60. Montaigne disait qu'il était d'une taille un peu en dessous de la moyenne, donc ça pourrait correspondre. Son cœur a été prélevé au moment de son inhumation, on le sait, donc normalement, c'est qu'à sa cage thoracique devrait être sciée. Et puis, il a fait de multiples chutes de cheval, dont une assez grave, on pourrait éventuellement retrouver les séquelles. Et il souffrait d'une maladie malheureusement extrêmement douloureuse, des petits cailloux dans la vessie.
Des calculs rénaux,
voilà, et il est peu probable, enfin pourquoi pas, retrouver quelques-uns de ces petits cailloux. Voilà, l'enquête va se poursuivre.
Oui, l'enquête ne fait que commencer et on aura la certitude que c'est Montaigne ou que ce n'est pas lui un jour, combien de temps?
Dans quelques mois. Le seul risque que les scientifiques courent, c'est qu'il y ait eu confusion dans le retour de la dépouille au 19e siècle, que ce soit quelqu'un de sa famille qui a été rapatrié. Mais a priori, 99%, on peut espérer que c'est bien Montaigne.
Ce n'est que vers la fin des années 60 qu'un satellite d'observation américain détecte un sursaut gamma pour la première fois. Une découverte qui va ouvrir la voie à un tout nouveau champ de recherche en astronomie et en astrophysique. Mais pourquoi les sursauts gamma sont-ils si importants pour les astronomes ?
Voilà une question. 60 ans après leur découverte, les sursauts gamma font encore l'objet de toutes les attentions des scientifiques. Et deux d'entre eux viennent de battre un record d'énergie, Sophie Becherel.
Oui, leur énergie atteint 1000 milliards de fois celle de la lumière visible, celle du Soleil par exemple. Effet surprenant, ces phénomènes cosmiques ont été détectés cette fois-ci depuis le sol. Précisément depuis un télescope basé en Namibie, le HESS, et un autre situé sur les îles Canaries, MAGIC. Alors pourquoi c'est une information importante ? D'abord parce que les sursauts gamma, en dépit de leur énergie, sont furtifs. Rappelons qu'ils sont générés lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent ou quand une étoile massive type supernova meurt. Juste avant l'explosion, la matière centrale de l'étoile se contracte et forme un trou noir. Et de ce trou noir s'échappe alors un faisceau étroit de matière qu'on peut se représenter comme la lumière d'un phare, de chaque côté si vous voulez. Et donc ce flash lumineux très bref, très intense, eh bien c'est ça le sursaut gamma. Donc dans le cas présent, deux événements ont été détectés, l'un en juillet 2018, survenu à 6 milliards d'années-lumière, et un autre capté en janvier de cette année, 4 milliards d'années-lumière. L'énergie des photons collectés allait jusqu'à 1 téraélectronvolt, ça veut dire 1000 milliards d'électronvolts, et ce sont donc les plus énergétiques jamais détectés.
Ça correspond à 1000 milliards de fois la lumière visible. C'est-à-dire que cette lumière, on dit que c'est de la lumière, mais c'est pas de la lumière que notre œil pourrait percevoir.
Non, ça n'est exactement. C'est dans une gamme, donc les rayons gamma, gamme que l'œil ne peut pas détecter.
Alors, hormis le niveau d'énergie inégalé, en quoi cette découverte a-t-elle surpris les astrophysiciens ?
Alors, c'est le fait que ça a été détecté au sol et surtout le décalage par rapport à l'événement. Petit retour en arrière, comme le disait l'archive, c'est en 1967, en pleine guerre froide, que les Américains ont détecté les premiers sursauts gamma grâce aux satellites. À ce moment-là, ils cherchaient à vérifier si l'URSS de l'époque ne procédait pas à des essais nucléaires dans l'atmosphère. Et donc, ils ont compris, plus tard, en 90, que ces phénomènes, ces flashs lumineux, venaient du cosmos et de très loin. Et donc, en l'occurrence, ce sont des satellites, Vigie, on pourrait dire, Swift et Fermi, deux satellites de la NASA, qui ont d'abord repéré ces deux sursauts gamma dans le ciel. Et comme capter un sursaut gamma, c'est un peu comme quand vous voulez photographier une étoile filante. Il faut être déjà regardé dans le bon axe, puisque le phénomène est aléatoire, et puis ensuite il faut avoir l'appareil photo prêt à déclencher. Et donc là, les satellites servent de vigie, et puis ensuite, hop, ils alertent les télescopes au sol. Et donc c'est ce qui s'est passé. HESS en Namibie a repéré le sursaut gamma 10 heures après, pour MAGIC ça n'était seulement qu'une vingtaine de minutes après. C'est donc très très longtemps après. Comment expliquer cela ? Eh bien en fait, ce qui a été capté, c'est la rémanence de la lumière. C'est-à-dire que les photons si énergétiques qui ont été captés viennent pas directement du sursaut gamma, mais d'un phénomène qui s'est produit après, au moment de l'explosion de l'étoile, c'est du moins l'hypothèse que formulent les scientifiques. L'explosion s'est accompagnée d'une onde de choc. Cette onde de choc a agi sur les particules cosmiques comme le ferait un chasse-neige. Mmh. Elle a accéléré les particules, ce qui a généré ce rayonnement aussi énergétique qu'on a capté.
Ça s'est passé très très loin de nous, toute cette histoire,
oui,
Sophie Becherel.
4 milliards d'années et 6 milliards d'années.
Oui, d'années-lumière.
D'années-lumière, ce qui veut dire que l'univers à ce moment-là avait cet âge-là. Donc vous voyez, il n'était pas du tout comme aujourd'hui.
Ouais. Est-ce qu'il pourrait se produire un tel événement à proximité de nous ?
Tout à fait. En juillet de cet événement, pas forcément un sursaut gamma, mais oui, il y en a des beaucoup plus proches. Dans notre galaxie, la constellation du Crabe, un événement très énergétique a eu lieu, a été capté cet été.
Et on risque rien ?
Non, on risque rien, ne vous inquiétez pas.
Ça va, rassurez-moi.
Mais peut-être va-t-on, avec ces sursauts gamma, en apprendre plus sur les rayons cosmiques qui arrivent jusqu'à nous.
En bref, dans le reste de l'actu scientifique, Carole Châtelain, le séquençage du génome du ver du diable, le ver qui repousse les limites de la vie.
Oui, alors c'est quelque chose d'extraordinaire que les scientifiques ont découvert. C'est un tout petit ver de 2 mm qui est l'unique organisme pluricellulaire à vivre à plus de 4 km sous nos pieds. On ne pensait pas que c'était possible. Ah oui. On savait qu'il y avait des bactéries qui pouvaient vivre dans des conditions aussi difficiles parce qu'il y fait une chaleur dantesque. D'ailleurs, ce ver, on l'a appelé de son nom latin Mephisto parce qu'il fait penser à ce démon qui résiste à peu près tout. Et le génome vient d'être séquencé et on a découvert qu'en fait, il a mis en place dans son génome, tout un tas de stratégies pour résister à la chaleur et puis pour s'adapter à un environnement totalement hostile alors qu'il ne peut pas bouger. Et là, il coule des jours heureux à plus de 4 km donc sous nos pieds.
Impressionnant ce verre. Sophie, Elon Musk a un don pour les effets de manche. Il fascine et une fois de plus, il est parvenu à faire pas mal de buzz autour de son pick-up électrique aux lignes futuristes. Mais vous, Sophie Becherel, vous avez vu cette semaine une autre facette des exploits d'Elon Musk.
Oui, vous allez dire que je suis un esprit chagrin, mais effectivement, alors que tout le monde s'ébaudit du Cybertruck, là, aux vitres soi-disant incassables, mais qui quand même ont été fissurées cette semaine, eh bien qui parmi nous a repéré l'explosion spectaculaire du prototype de la fusée Starship? Ça s'est passé mercredi. Starship, rappelons-le, est conçu par la société SpaceX, d'Elon Musk donc, pour faire des allers-retours vers la Lune, peut-être même vers Mars. C'est une fusée navette réutilisable. Elle a été dévoilée en septembre dernier et donc ce premier prototype a explosé au sol au moment où des tests étaient menés pour vérifier la pression cryogénique dans les réservoirs. Alors dans ce cas-là, évidemment, on pousse les systèmes un petit peu loin pour vérifier leur résistance au vide spatial, et donc là, spectaculaire déflagration, panache blanc, bon là, échec quoi.
Alors
échec.
Bon, ça arrive la société... souvent aussi.
Voilà, c'est vrai, c'est d'ailleurs partie. Ce qu'a dit Elon Musk, que ouais. Pendant les essais, il est normal d'avoir ce type d'événement. C'est vrai, sauf qu'au départ, quand même, ce prototype devait faire un saut de puce de 20 km, Elon Musk était assez optimiste. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, ça va retarder le programme, parce que le deuxième prototype, lui, n'est toujours pas fini, dans l'usine de Floride, donc il faut attendre que ce deuxième prototype soit achevé et que les tests reprennent. C'est un peu la méthode d'Elon Musk, c'est vrai. La capsule Dragon, qui est la première capsule privée, qui doit emmener des astronautes vers l'ISS, n'est pas non plus totalement prête. La NASA espérait les premiers vols pour début 2020, mais voilà, c'est pas encore totalement 100% fiable, donc on va pas mettre des bons hommes en haut de cette capsule.
Oui. Carole Châtelain, au sommaire du numéro de Science et Avenir, qui vient tout juste de sortir.
Eh bien, les mathématiques expliquent notre monde. Ah. On va donc pouvoir découvrir les lois mathématiques cachées derrière les choses aussi simples qu'une fleur de tournesol, par exemple.
Nous aussi, on s'intéressera aux mathématiques la semaine prochaine. Merci, Carole Châtelain et Sophie Becherel. En deuxième heure, nous allons partir à la découverte des volcans sous-marins avec nos invités, la volcanologue Anne Lefriant et le géologue Eric Humler. Nous nous intéresserons tout particulièrement au volcan en cours de formation au large de l'île de Mayotte. Ce volcan est apparu il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est la première fois que les scientifiques assistent quasiment en direct à la naissance d'un volcan sous-marin. Ils vont nous raconter ce qu'ont révélé les campagnes océanographiques menées sur place.
I
C'était Fire de Black Puma sur France Inter. Et merci à Pierre Faucillon et Nicolas Cazot qui sont à la technique aujourd'hui. Juste après le flash, plongée à la découverte des volcans sous-marins et plus particulièrement celui en cours de formation au large de Mayotte. À tout de suite.